Il est un peu plus de 21h sur votre radio locale sur Radion. Voici Wagon Livre, 326e numéro aujourd'hui. Une émission qui va nous ramener à une époque peu lointaine, les années 50 et 60, la décolonisation, l'Algérie avec tous les problèmes que rencontrèrent les centaines de milliers de Françaises et Français qui furent contraints de quitter subitement ce pays après les événements, ce qu'on appelait pudiquement les événements, et surtout après l'indépendance de ce pays en juillet 1962. Pierre-Jean Cardona, bonsoir.
Bonsoir Yannick Petit.
Merci à vous d'être venu depuis le nord du département de l'Yonne ce soir devant le micro de Wagon Livre. Vous avez fait paraître en 2014 un très court récit intitulé « 38 rue de Constantine » et qui est un récit très largement autobiographique qui vous permet de retracer quelques épisodes familiaux dans la banlieue d'Alger d'avant 1962. Vous êtes vous-même né en Algérie en avril 47 à Hussein-Dé, qui était un arrondissement d'Alger de 100 000
Tout à fait.
Habitants. Je vous présente un peu à celles et ceux qui nous écoutent ce soir.
Je vous en prie, allez-y.
Vous êtes enseignant à la retraite. Vous êtes arrivé dans Lyon en 1969, où vous étiez instituteur. Vous avez débuté en Puisaye, puis après un petit passage à Saint-Julien-du-Sault, vous vous êtes installé à Sens, où votre épouse et vous-même étiez directeur d'école en zone d'éducation prioritaire.
Tout à fait.
Durant les dernières années d'activité, vous cumuliez un poste de direction avec celui de chargé de mission en pédagogie des sciences auprès de l'inspecteur d'académie. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous résidez à Saint-Clément, la grande banlieue de Sens.
Oui, oui, tout à fait. C'est exact.
Pierre-Jean Cardona, le point de départ, et vous l'expliquez au début de votre récit, le point de départ de ce texte, qui est court, hein, c'est moins de 90 pages, mais c'est très, très riche, c'est toute votre adolescence en Algérie.
Oui, ce sont des périodes que j'ai passées et que j'ai voulu transmettre à mes enfants et à ma petite fille, essentiellement. C'est ça, surtout, le point de départ de cet écrit.
Alors, vous étiez parti, finalement, sur le désir de réaliser un film à partir d'archives familiales et de vidéos familiales et de reportages professionnels. Donc, au départ, c'était plutôt une sorte de documentaire sur cette vie en Algérie.
Exactement. J'avais fait des petites fiches que je compilais et que je complétais également parce qu'il fallait raviver ma mémoire. Donc j'avais oublié pas mal de noms, de lieux. Et c'est en regardant des films familiaux que mon père faisait que j'ai pu réactiver, comme je vous le disais, un petit peu tous ces souvenirs. Donc j'avais compilé tout ça et mon désir, c'était de faire un film qui aurait mêlé des archives personnelles, des archives familiales, avec des documents officiels, on va dire, des documents de l'INA, des choses de ce type-là. Et puis je me suis heurté à pas mal de difficultés, même si j'avais l'habitude de monter un petit peu des films. Je me suis heurté à pas mal de difficultés et j'ai vu que j'y arriverais pas. Donc je me suis lancé dans l'écriture de ce petit récit en gardant quand même la trame et le montage que j'aurais peut-être fait dans un éventuel film. Dans ce petit livre, il y a quelques retours en arrière. Voilà, je l'ai conçu de cette façon.
L'événement déclencheur et bouleversant, c'est la disparition de votre maman.
Oui, parce que je me suis aperçu évidemment que avec le décès de ma maman, c'était la dernière mémoire de cette génération qui disparaissait dans ma famille. Et que voilà, je me retrouvais être le seul dépositaire de ces quelques souvenirs. Donc j'avais envie de laisser une trace de ce côté-là.
Ce pays aujourd'hui étranger où vous êtes né, l'Algérie, c'est un pays qui est omniprésent dans votre vie, dans la mémoire en tout cas?
Dans la mémoire, oui, mais pas omniprésent parce que c'est un pays qui a énormément changé depuis notre départ, ce que je conçois tout à fait. Et donc c'est devenu maintenant pour moi un pays étranger. Donc J'ai quelques souvenirs, sans nostalgie, mais voilà, c'est une partie de l'histoire que j'ai gardée en moi.
Vous ouvrez le récit par une citation de quelqu'un qui est aujourd'hui académicien, c'est oui. Dany Laferrière, je cite, hein, « L'exil du temps est plus impitoyable que celui de l'espace. Mon enfance me manque plus cruellement que mon pays. »
Voilà, il a traduit exactement ma pensée dans cet écrit, oui. Mon pays, le pays en lui-même ne me manque pas du tout. C'est plus les souvenirs, l'enfance et peut-être aussi l'enfance et l'adolescence, puisque quand je suis parti j'avais presque 15 ans, qui a été coupée comme ça de façon brutale et je me suis retrouvé donc en France dans un pays qui m'était à ce moment-là étranger.
L'enfance n'est-elle pas la première patrie d'un écrivain ?
Oui, sûrement, parce que l'enfance nous marque à partir des événements qu'on a vécus, à partir de l'éducation qu'on a reçue. J'en suis persuadé. Ensuite, tout se développe autour de ça. Je ne pense pas qu'on varie beaucoup dans la vie qu'on développe, les uns et les autres, qu'on change beaucoup quant au fond... par rapport aux idées générales qu'on avait dans l'enfance.
Arrêtons-nous sur le titre de votre récit. C'est une adresse. 38 rue de Constantine.
Tout à fait, c'est une adresse. C'est la petite photo qui se trouve sur la couverture qui a été faite en 1960. Et il me reste très très peu de photos de cette période en Algérie. Mais mon père avait fait cette photo où on voit les deux numéros, le numéro 36 et le numéro 38. Le 38, c'est l'endroit où je suis né, au cinquième étage d'un immeuble. Et le 36, eh bien, c'est où habitaient mes parents paternels, donc tout à côté. 36 qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été rasé suite à un tremblement de terre.
Parlons de cette famille Cardona.
Oui.
Dans un extrait que vous allez nous lire dans quelques minutes, vous écrivez « Je suis petit-fils d'étranger ». Parlez-nous un peu de vos ancêtres.
Et oui, je suis petit-fils d'étranger et je m'en suis rendu compte assez tardivement. Mes grands-parents trois d'entre eux étaient espagnols et ma grand-mère maternelle était d'origine italienne. Comme souvent et comme beaucoup de résidents en Algérie d'origine européenne, on est d'origine espagnole, italienne, maltaise, sicilienne. Enfin, il y a eu un beau mélange qui s'est établi là et je n'en savais rien du tout. Du côté de mes grands-parents paternels, ils étaient, eux, d'origine de l'île de Minorque, donc une petite île qui est située à mi-distance entre l'Espagne et l'Algérie. Et ces gens-là ont émigré au XIXe siècle, vers 1840. Ils ont fait de fréquents voyages de Minorque vers Alger.
Et vous dites d'ailleurs qu'ils ont en partie aidé à sculpter la côte algérienne au niveau des cultures, de l'agriculture.
Tout à fait, parce que ces gens-là étaient des travailleurs de la terre sur Minorque. Minorque, en fait, c'est une île où il y a beaucoup de cailloux, du vent en quantité, donc il ne pousse pas grand-chose. Au XIXe siècle, il y avait une vie vraiment très, très pauvre sur cette île. Et donc ces gens-là ont cherché une vie meilleure et ils se sont établis en Algérie. Et ils se sont établis un petit peu comme les Maghrébins se sont établis en France au XXe siècle, c'est-à-dire qu'il y avait des regroupements familiaux, ils conservaient toutes leurs traditions, que ce soit la cuisine, la morale, ils vivaient ensemble, ils reproduisaient exactement ce qu'ils avaient fait ce qu'ils vivaient, ce qu'ils avaient fait sur leur île. Et D'ailleurs, c'est symptomatique. Quand ils faisaient leur voyage, souvent, ils faisaient leur voyage dans des bateaux, des petits bateaux, des voiliers de marchandises. Et quand on lit les documents de l'époque, les documents portuaires de l'époque, ils étaient très peu nombreux, ces immigrants, dans ces bateaux. Et à côté du nom des passagers, on retrouve la cargaison et on voit qu'ils emmenaient avec eux des tuiles, des légumes, des semences. Et c'est pour cette raison qu'ils ont reproduit, puisque le climat était assez comparable, ils ont reproduit dans la région de la Mitidja, qui était une bonne région, mais où tout était à faire, ils ont reproduit leur vie, la vie qu'ils menaient à Minorque.
Alors vous avez mangé aussi un peu exotique grâce à eux.
Un peu exotique, oui, pour moi, c'est
Ou
pas
méditerranéen, très méditerranéen en
voilà,
tout cas.
je ne peux pas dire que ce soit exotique parce que dès ma petite enfance, j'étais habitué à ces plats, donc.
Alors parlons-en un petit peu, vous les mentionnez, je vous cite Pierre-Jean, on mange des
Des
fromatrades?
fromageades.
Des fromageades, de la soubressade, du boutifard, des empanadas au verre de blettes ou à la frita, mélange de tomates et poivrons frits, et pour les pâtisseries, des crespelles et des pastissets.
Et oui, et tout ça est excellent.
Vous n'avez pas en mangé depuis?
Si, si, si. Toutes ces recettes, ma grand-mère les avait consignées, donc moi je les ai reproduites. Elles se retrouvent même sur mon site internet. Et ce sont des recettes familiales. Oui, tout à fait.
Alors, après nous avoir mis l'eau à la bouche, j'espère que cette évocation de plat sera aussi une invitation à la lecture. Je rappelle le titre de votre récit, 38 rue de Constantine. C'est sous la plume de Pierre-Jean Cardona. C'est à The Book Edition. On revient avec vous dans une poignée de minutes sur cette adolescence en Algérie. On marque à bord de Wagon Livre un premier intermède musical.
Comme toi Dragon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Ils ont été des centaines de milliers à devoir quitter subitement l'Algérie. Pour chacun, ce fut une histoire personnelle, mais pour tous, ce fut un déchirement. Il était adolescent en 1961 et c'est Pierre-Jean Cardona qui retrace dans 38 rues de Constantine quelques épisodes familiaux dans la banlieue d'Alger, dans une famille de gauche. On y reviendra, mais arrêtons-nous une fois de plus sur vos aïeux, vos ancêtres, Pierre-Jean Cardona.
Oui.
Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous lire un extrait de votre récit, s'il vous plaît.
Je suis petit-fils d'étranger. Je l'ai découvert assez tard, alors que je débutais des recherches généalogiques. En effet, mes quatre grands-parents ne sont pas nés français, mais ont été naturalisés. Bien que nés en Algérie, territoire français, ils avaient la nationalité de leurs parents. Trois étaient espagnols, d'origine minorquine concernant la branche paternelle, et d'Alicante pour mon grand-père maternel. Ma grand-mère maternelle était née italienne par son père, mais sa mère était espagnole du sud de l'Espagne. Mes grands-pères devinrent français en faisant la Grande Guerre. Le pays avait besoin de bras, ou plutôt de chair à canon. Tous mes ascendants sont arrivés en Algérie après le début de la colonisation française. C'était une immigration économique. Les conditions de vie, que ce soit sur l'île de Minorque, à Alicante ou sur l'île de Pantelleria, étaient très précaires et tous espéraient trouver sur cette terre une vie meilleure. Côté paternel, mes ancêtres sont partis de Minorque, des ports de Mahon ou de Ciutadella, entre 1840 et 1860. Ils se sont installés, comme une bonne partie de la communauté minorquine, autour d'Alger, à Ussindé. C'est dans cette région de l'Algérois, Fort de l'Eau, Couba, Ussindé, qu'on en trouve le plus grand nombre. Ils transportent avec eux leurs habitudes de vie, quelques plantes, des spécialités culinaires, leur langue. Pour la plupart, ils fuient leur île pauvre, balayés par le vent. Ce sont des maraîchers, généralement très travailleurs, et espèrent une vie meilleure en Algérie où tout est à faire. Ils s'imposent d'ailleurs dans ce domaine et ne tarderont pas à fournir les marchés de la ville en légumes et fruits de toutes sortes. Le travail et la parole donnée sont des valeurs reconnues par tous. Inutile avec eux de signer un document. Ce qui est dit, on s'y tient. De plus, ils ont la réputation d'être sobres. Pour le gouvernement français, c'est le type de population qui est recherché. Pourtant, pour beaucoup, il faudra attendre de nombreuses années et passer des générations pour être naturalisé et devenir français. Les Mahonais vont construire dans la banlieue d'Alger de petites maisons semblables à celles de leur île, badigeonnées régulièrement au lait de chaux. Cette population vit et se développe entre elles. Les mariages s'effectuent entre Mahonais et les classes sociales, les métiers, la morale restent stables dans cette communauté. On se marie entre Ponce, Saint-Ès, Cardona, Bosque, Tuduri, Ferrer. On mange des fromageades, de la soubressade, du boutifard, des empanadas au verre de blette ou à la frita, mélange de tomates et poivrons frits. Et pour les pâtisseries, des crespelles et des pastissettes. En 2003, pour notre premier voyage à Minorque, je vais redécouvrir toutes ces saveurs, ces odeurs, qui sont restées gravées dans ma mémoire. Au hasard des promenades, des rencontres, tous mes souvenirs d'enfant vont se retrouver rassemblés. J'ai l'impression d'être dans un pays connu. Même le hasard s'en mêle. Alors que nous recherchons, sur les chemins de campagne aux alentours de Mahon, aujourd'hui près de l'aéroport, une ferme au lieu-dit Aurelio, ferme dans laquelle mes ancêtres, Cardona de Aurelio, vivaient déjà au XVIe siècle, nous croisons un vieil homme marchant sur la route. Nous lui demandons notre chemin, il nous l'indique, et en échangeant un peu, malgré mon très mauvais espagnol, il m'apprend qu'il habite Torrelio et qu'il s'appelle Cardona.
Notre invité aussi s'appelle Cardona. Merci Pierre-Jean Cardona pour cette lecture. J'aimerais que vous évoquiez votre grand-père paternel, Touniette.
Oui, Touniette, Antoine Cardona.
Alors Touniette, c'est un personnage haut en couleur, me semble-t-il. C'est ainsi que vous le rendez dans votre récit.
Oui, c'est un personnage, on peut le dire comme ça, qui avait l'habitude de se manifester. C'était un homme qui était très petit, qui parlait un français, on va dire, moyen, mais qui avait l'habitude de se débrouiller. Il avait été à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans. Et puis avait aidé plus tard, à cette époque, il avait aidé ses parents dans une épicerie. Ensuite, il est devenu ouvrier et voilà, il a terminé sa vie ouvrier. Il y est arrivé quelques aventures, évidemment.
Il avait notamment au travail été victime d'une électrocution.
Il avait été victime d'une électrocution avec quelques-uns de ses compagnons de travail. Et ils étaient restés, je me souviens très bien, j'étais enfant, mais je me souviens très bien encore de l'image. Ils étaient restés tétanisés parce qu'ils avaient voulu se défaire de l'emprise de l'électricité sur un câble. Et ils s'étaient évidemment électrifiés, ils étaient trois ou quatre, si ma mémoire est bonne. Et je me souviens avoir revu mon grand-père... dans leur appartement du 36, dans sa chambre, et sur le dos, sur son lit, qui ne bougeait pas. J'avais pas, à cette époque-là, j'avais pas d'idée de la mort, mais pour moi, il était mort, il ne bougeait pas. Et puis il s'en est relevé, a priori. Ça lui a même donné, j'ai l'impression, un peu d'énergie, ce petit coup d'électricité.
Pierre-Jean Cardona, présentez-nous un peu votre maman et votre papa. Que faisaient-ils en Algérie? Quels étaient leurs métiers? Parce qu'en fait, si j'ai cru comprendre, c'est après le retour en France, après 61, ils ont repris des formations professionnelles et ont changé d'orientation professionnelle. Mais en Algérie, que faisaient vos parents?
Tout à fait. Mon père était comptable et ma maman avait suivi des études dans ce qu'on appelait à l'époque un EPS. On suivait donc des cours généraux et on avait une formation professionnelle parallèlement. Donc comme ça, elle a pu apprendre la couture et puis passer des examens et elle s'était lancée dans la haute couture. Ça n'avait pas très bien marché. Et donc mes parents s'étaient ensuite rabattus pour ma mère, sur l'achat d'une petite librairie de quartier. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était, j'allais déjà au lycée à l'époque, mais ce qui m'avait marqué, c'était le changement. Ma maman était une battante et le changement qu'elle voulait impulser dans cette boutique, qui était plus au départ une boutique où on vendait du tabac, des petits souvenirs, des choses comme ça. Et comme on y vendait quelques livres, elle avait voulu développer justement cette orientation et le côté librairie et vente de disques.
Alors vous êtes retourné sur les lieux?
Non, jamais.
C'est pas vous?
Non.
Quel membre de votre famille est retourné à Ussindé?
Jamais. Ma sœur est retournée à Ussindé, mais elle n'a fait qu'un très court passage dans la ville. Et quand je l'ai questionnée, c'était dans les années 70, quand je l'ai questionnée, elle ne m'a pas donné beaucoup de détails. Je pense qu'elle n'avait pas envie d'en parler, ça ne l'intéressait peut-être pas beaucoup. Elle était partie surtout pour découvrir le pays et le sud du pays, puisque nous, enfants, ou jeunes, puisque ma sœur était plus âgée que moi, on n'avait pas la possibilité de voyager dans ce pays. ont resté du fait de la guerre autour de la capitale.
D'ailleurs, vous allez en colonie de vacances en France de temps en temps, vous allez du côté de Perpignan, vous allez aussi avec vos grands-parents en France, et vous écrivez « À chacune de mes arrivées en France, je ressens cette liberté, même si je n'en jouis pas particulièrement. Savoir qu'on peut se promener, aller où on le souhaite, sans contrainte, sans danger, procure une tranquillité d'esprit inimaginable. » C'était tout de même dangereux, l'Algérie des années 60, au moment des événements, j'imagine.
Oui, c'était dangereux.
Mais c'était une menace à l'égard des Français, où oui, tout le monde avait peur, même les Algériens.
Il y avait plusieurs types de menaces. Il y avait une menace à l'égard des Français si on partait, par exemple, en campagne ou vers le sud. Bon, vers le sud, c'était assez compliqué.
La menace des Fellahs.
De partir, tout à fait. Et puis d'un autre côté, pour des questions politiques que j'évoque à notre moment, c'était aussi dangereux parce que il y avait à la fois à Alger des attentats du FLN et ensuite de l'OAS. Donc c'était à double tranchant, si on peut dire.
On reprendra notre conversation sur justement les événements d'Algérie, l'engagement de votre père, parce que votre père n'était pas neutre, il avait une position politique très claire.
Oui, tout à fait.
Plutôt pro-FLN tout de même, ou conscient que ce pays devait gagner son indépendance.
Oui, voilà, plutôt indépendantiste, on va dire. On n'employait pas ce mot-là, mais je le dirais plutôt comme ça, oui.
On vous retrouve dans une poignée de minutes. Pierre-Jean Cardona, je rappelle que vous êtes ce soir l'invité de Wagon Livre sur Radione pour votre récit 38 rue de Constantine, disponible à The Book Edition. Petite pause musicale et nous revenons juste après.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radione et radione.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est Pierre-Jean Cardona qui nous accompagne ce soir pour 38 rue de Constantine, qui sont les souvenirs des pages personnelle, familiale d'un homme qui est né en Algérie, je l'ai dit, en avril 47, qui aujourd'hui est à la retraite, et on est heureux qu'il le soit d'ailleurs, hein, ça fait du bien d'être en retraite, Pierre-Jean, d'écrire.
Tout à fait, et de faire bien autre chose.
On parlait de votre père avant l'intermède musical,
oui.
Donc un père à gauche, parce que c'est aussi ce que souligne la quatrième de couverture, une famille de gauche.
Tout à fait, ma famille paternelle.
Oui. Du côté de la maman, ils sont plutôt à droite. Hein.
Du côté de ma maman était quand même de gauche, enfin elle était quand même assez modérée. Mais mon père était quand même beaucoup plus politisé. Il était militant syndical, il a été aussi militant politique, proche du Parti communiste algérien. Il en a été adhérent pendant une courte période, mais enfin a toujours quand même soutenu le Parti communiste algérien.
Et votre papa vous disait que, de toute façon, l'indépendance de l'Algérie était inéluctable.
Tout à fait, c'était inéluctable pour lui. Je pense qu'avec le recul, bon, il avait entièrement raison, parce qu'à cette époque, le ratio était de 1 Européen pour 9 autochtones. On disait arabes, on les englobait dans ce mot arabe, bien que, par exemple, les berbères ne sont pas du tout arabes et n'apprécient pas du tout quand on les traite d'arabes. Mais enfin, c'était plus les populations qui avaient une culture musulmane. Donc on était 1 pour 9. Et donc, mathématiquement, le pays ne pouvait devenir qu'indépendant.
Mais vous aviez des copains arabes, algériens ?
Ah ben, tout à fait. Les copains qui vivaient... en fait, j'habitais en ville, enfin dans une banlieue ouvrière d'Alger. Et donc, ben, j'avais tous les copains d'école et de lycée. Mais,
et ça se passait bien ?
Ben, ça se passait très
en
bien.
En dépit, entre des Français, catholiques, chrétiens et des musulmans, il n'y avait pas de...
Il n'y avait absolument aucune différence. Mes grands-parents habitaient dans ce 36 de la rue de Constantine. Et c'était un tout petit appartement qui donnait dans une cour où habitait une famille musulmane. Et on était invités à toutes les fêtes de famille. Ils faisaient des grandes fêtes pour les mariages, baptêmes. Et évidemment, on participait. Ça se passait dans cette cour. Et voilà, il n'y avait absolument aucune différence. On vivait avec nos traditions. Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure, notre cuisine, etc. Mais tout ça était accepté et partagé.
Alors il est important de dire que la famille Cardona quitte l'Algérie en 61 après avoir réussi péniblement à vendre cette petite librairie. Vous êtes parti un an avant, j'allais dire avant le désastre, parce que ça a été quand même une catastrophe.
Oui,
pour les Français qui ont dû retourner en France sous la menace tout de même.
Oui, c'est bizarre, vous employez le mot retourner. On parlait d'ailleurs de retour et dans toutes les familles on parle de retour. Alors que pour la majorité des personnes d'origine européenne, c'est comme ça que je vais les appeler, ils n'avaient jamais mis les pieds en France. C'était pas un retour, c'était une arrivée en pays étranger. Mais bon, on dit le retour, c'est passé dans le langage, effectivement.
Et vous vous rappelez, vous, le départ de cette Algérie en 61, vous aviez donc 14 ans.
Oui, j'avais un peu plus de 14 ans. Ben, le départ pour moi s'est effectué, il a été un petit peu difficile, mais il a été difficile après coup. Je suis parti début juillet pour passer les vacances chez mes grands-parents, qui, eux, étaient depuis 2-3 ans déjà installés à Perpignan. Ma sœur aînée, j'ai qu'une sœur qui était mon aînée, avait eu son bac philo. Moi, j'avais fait une bonne année.
Vous, un très bon élève.
Au lycée, à cette époque-là, j'étais très bon élève. Après, ça a un petit peu décliné, malheureusement. Mais donc voilà, mes parents étaient satisfaits. Ils avaient réussi à vendre leur petite librairie dans des conditions compliquées, parce qu'à cette époque, tout ce qui était à vendre ne l'était pas, quoi. Les gens n'allaient pas s'engager dans une aventure en achetant un commerce. Bon, là, ils avaient trouvé des acheteurs qui, malheureusement, n'ont jamais pu payer la librairie. Et d'ailleurs, mes parents n'ont jamais été indemnisés de cette perte, parce qu'ils n'entraient pas dans le cadre administratif. Ils étaient rentrés trop tôt en France. Et donc voilà, je suis parti en Algérie. Et ça n'est qu'après que j'ai remarqué quand même quelques petits indices. Mon père, ça je m'en souviens très bien, avait amené sa caméra, son appareil photo, et m'avait beaucoup photographié à l'aéroport de Maison-Blanche, l'aéroport d'Alger. Et bon, ça me semblait pas étrange, mais après j'ai compris pourquoi. Ben, tout simplement, pour moi, c'était le dernier voyage, mais il ne me l'avait pas dit. Et je ne l'ai su que lorsque mes parents sont revenus avec ma sœur, au mois de septembre. Ils sont venus me chercher chez mes grands-parents à Perpignan. Et c'est ma sœur qui m'a annoncé que la famille allait s'installer à Toulon, qu'ils avaient trouvé un petit appartement en location et que voilà, on allait débuter une nouvelle vie. Et donc, moi, ça m'avait un petit peu choqué. Pendant longtemps, j'ai reproché cet état de fait à mes parents parce que j'étais parti, on va dire, comme un voleur. J'avais pas pu revoir mes amis, mes maîtres, parce qu'il y avait des personnes auxquelles j'étais attaché dans l'éducation. Il y avait un certain nombre d'adultes auxquels j'aurais bien aimé dire au revoir. Et par le fait, je ne les ai quasiment jamais revus. J'ai eu seulement deux contacts avec des amis qui sont toujours restés des contacts téléphoniques. Depuis, il y en a un qui est décédé, donc je risque pas de le voir. Et un contact très tardivement avec mon maître de CM2 qui était pour moi...
Monsieur Graille,
qui était pour moi un modèle et que je n'osais pas recontacter alors qu'il était à une heure de route de Sens en Seine-et-Marne. Et je pensais que je le dérangerais. Enfin, et donc quand j'ai franchi ce pas, que j'ai décidé d'aller le voir. Ça s'est formidablement passé. Et ensuite, on s'est écrit quelquefois.
De lui, vous dites, de Monsieur Graille, qu'il a joué un rôle primordial sur le choix de votre carrière,
tout
à savoir l'enseignement.
Tout à fait. Pour moi, ça a été, je vais pas dire un modèle, mais il y avait beaucoup de choses à prendre dans l'éducation, la façon dont il menait sa classe. Et c'est après, quand j'ai découvert un petit peu, je le vivais très bien à l'école, j'étais très heureux à l'école, mais après, lorsque j'ai découvert un petit peu la pédagogie coopérative, la pédagogie active, tout ça, dans ma tête, tous ces éléments se sont remis un petit peu en place, et puis j'ai découvert donc tous les bienfaits.
Alors vous saluez aussi Ali Remli, qui est l'instituteur qui vous a appris à lire.
Qui m'a appris à lire, donc comme son nom l'indique, eh bien c'était quelqu'un du CRU, d'origine arabe, lui.
Militant FLN.
Militant FLN, militant déclaré, hein, on le savait. C'est une personne qui m'a appris à lire, et j'ai vu plus tard l'importance que cet apprentissage pouvait avoir et dans la vie future des enfants et des adultes. Et puis aussi parce que dans cette classe, ça se passait très bien, il y avait beaucoup d'humour, Et voilà, il m'a habitué à ça.
Alors le 4 juin 1958, vous avez vécu un événement historique. C'est De Gaulle qui vient en Algérie et qui prononce ce fameux « Je vous ai compris ». Vous l'avez entendu, vous ?
Tout à fait. Alors, moi, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas entendu sur le forum, l'endroit à Alger.
Oui, depuis le balcon
du forum, oui, du gouvernement.
Général d'Alger.
Général, oui, à l'époque. Mais oui, je l'ai entendu. En revanche, mon père, qui était aussi un opposant à De Gaulle, puisque De Gaulle, à cette époque-là, parlait d'Algérie française, était allé avec un autre ami, enseignant, non pas pour écouter la bonne parole, mais pour voir un petit peu ce qui allait se passer. Et voilà, je peux peut-être vous raconter une petite anecdote à ce sujet-là. Mon père avait un garage dans cette fameuse cour où on faisait les fêtes et les mariages de la famille Zerouki qui habitait là. Et dans ce garage, c'était un garage à l'ancienne, il louait ce garage, il y avait quantité de boîtes avec toutes sortes de choses à l'intérieur. Et il avait emporté une grosse boîte avec son ami Robert Bagur. Ils étaient partis dans la 203 de M. Bagur. Et lui avait pris une grosse boîte avec des pointes qu'il avait semées par-dessus bord, on va dire, par la fenêtre, sur la route. C'était une espèce de grande route qui suivait le bord de mer pour arriver en centre-ville à Alger. Et évidemment, bon, il y avait une foule énorme qui se dirigeait vers cet endroit pour la venue de Gaulle. Et donc, il se met, tel le petit poussé, les clous derrière lui pour que les gens crèvent et ne puissent pas arriver vers ce lieu de rendez-vous qui était le forum, le gouvernement général d'Alger.
Dans votre récit, dont je rappelle le titre, hein, 38 rue de Constantine, il est question à un moment, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, il est question d'une perquisition de la DST au domicile de vos parents.
Oui.
Et vous étiez là, vous, petit garçon, enfin petit garçon de 14 ans, 13-14 ans.
Oui, j'étais là et bien là. En fait, cette perquisition, donc mon père était, comme tous les militants de gauche ou tous les militants favorables à l'indépendance, était fiché. Et donc, un beau jour, vers les 6 heures du matin, on avait donc l'habitude de dormir dans l'arrière-boutique de cette librairie. C'était un tout petit appartement. Il y avait la chambre de mes parents et puis une chambre pour ma sœur et moi. Et on a été tous les quatre réveillés par un grand bruit. C'était le rideau de fer de la... On avait un grand rideau de fer qui fermait la boutique et qui la protégeait en même temps. Et mon père était allé ouvrir donc le rideau de fer et s'était retrouvé nez à nez avec deux policiers qu'il y avait présenté un ordre de perquisition qu'il n'a même pas eu le temps de lire dans le détail, puisque après coup, il nous indique qu'il ne savait pas en fait ce qu'il y avait sur cette feuille, cette fiche de perquisition. Il fallait quand même conserver un côté légal. Il n'y avait plus beaucoup de légalité en fait dans le pays. Et donc ces deux personnes lui ont signifié qu'on allait subir une perquisition. Donc il nous a réveillés, ils lui ont dit qu'il devait rester à côté d'eux. Et ils ont donc perquisitionné d'abord le magasin, je ne sais pas, peut-être pour voir s'il y avait des livres subversifs qui étaient vendus. Bon, ce n'était pas le cas du tout. Et donc avec ma maman et ma sœur, on attendait dans l'arrière-boutique, dans la petite cuisine. Ma maman allait voir de temps en temps si mon père avait besoin de quelque chose. Et je me suis souvenu, à ce moment-là, que mon père avait un revolver qu'il avait hérité de mes grands-parents maternels lorsqu'ils étaient partis à Perpignan. Mon grand-père avait ça parce qu'il habitait en campagne et il pensait qu'il pourrait un jour se défendre s'il était attaqué. Comment, pourquoi, bon, enfin, c'était son idée. Il avait gardé ce pistolet et il l'avait remis à mon père. Or, mon père ne souhaitait absolument pas posséder une arme et le maniement des armes ne le concernait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et donc, il avait posé ce pistolet sur un meuble de cuisine. Et subitement, je m'en suis souvenu et je me suis dit, évidemment, dans quel pétrin il allait se trouver si les deux policiers de la DST le retrouvaient. Donc j'ai pris une chaise, j'ai grimpé sur la chaise, ramassé le pistolet, Castagnaga, exactement, un pistolet espagnol. Je l'ai mis dans ma poche, mais c'était évidemment très lourd. Et puis on voyait que j'avais quelque chose de très lourd dans ma poche. Donc je suis sorti par une deuxième porte qui était la sortie lorsque le magasin était fermé. Et j'ai caché je l'ai déposé sous des marches près d'un local à poubelle et je suis rentré. Les deux policiers ne se sont aperçus de rien. J'en ai informé ma maman qui m'a dit qu'elle avait oublié l'existence du pistolet. Et puis voilà, les policiers ont emmené mon père pendant 3 jours dans le secret le plus total. Et la première des choses qu'a faite ma maman, c'est d'aller récupérer évidemment le pistolet. Et elle s'est retrouvée, arrivée devant ce local à poubelle, elle s'est retrouvée nez à nez avec une voisine.
Madame Rosier ?
Là, c'est un nom d'emprunt.
Un nom d'emprunt, d'accord.
Un nom d'emprunt avec qui on n'avait absolument aucun rapport, qui étaient des partisans fervents d'Algérie française, militaristes. Enfin, c'était une famille de militaires. Et bon, c'était pas du tout notre monde. Et cette dame tenait le pistolet entre ses mains. Ma maman le lui arrache des mains en lui disant « c'est à moi ». Et elle a fait demi-tour, elle est repartie. Je pense que cette dame a été assez surprise et n'a pas répondu. Et voilà l'histoire.
Il n'y a pas eu de problème
Il n'y a pas eu de problème particulier. L'histoire s'est arrêtée là pour cet épisode.
Le livre est très intéressant, très riche aussi. Je dirais plein de couleurs pour nous en France. Qui n'avons pas connu cette période, vos voyages en bus pour aller à l'école, où le chauffeur du bus, en roulant, sort la main de la fenêtre et chip un fruit d'un camion qu'il croise ou d'un étal. C'est assez amusant tout ça.
Oui, on passait le bus ou les trolleys, puisque c'était des trolleys aussi qui passaient là, passaient à travers les halles d'Alger. Donc qui étaient grouillantes souvent le matin. Et il fallait se frayer un passage parce qu'il y avait les camions, mais on pouvait aussi trouver des charrettes tirées par des ânes. Donc ça allait très lentement. Vous imaginez tout le bruit, la couleur locale. Voilà, c'était très pittoresque, on va dire.
Je vous lis, Pierre-Jean. En 2007, par l'intermédiaire d'un correspondant algérien à Ussindé, je reçois des photos de la librairie. Donc la librairie que possédaient vos parents. Transformé et rajeuni, le magasin vend journaux, jouets, bonbons. Cet ami algérien me fait parvenir également des photos de l'arrière-boutique et du petit appartement. L'état matériel est déplorable. Néanmoins, je retrouve l'agencement des deux pièces du petit couloir de la cour donnant accès à la rue Parnay. Je reconnais, tant d'années après, les dessins géométriques du carrelage. Mais l'état de délabrement est tel que je ne montrerai jamais ces photos à maman et je n'oserai même pas les évoquer. On sent quand même que pour votre maman, ça aurait été un déchirement de voir...
Je crois, oui, parce que Elle avait des projets pour cette librairie. Et donc l'appartement, évidemment, qui était attenant, était bien entretenu. Après l'indépendance, les bâtiments, d'une façon générale, n'ont pas été entretenus parce que c'était trop compliqué.
Et puis il y a eu les pillages, il y a eu les occupations illégales d'appartements abandonnés.
Des occupations en ville, les appartements, enfin de nombreux appartements ont été occupés par des gens qui venaient de la campagne, qui n'avaient pas du tout les mêmes habitudes que les citadins. Donc effectivement, ça m'a fait évidemment mal au cœur lorsque j'ai vu l'intérieur de cet appartement, alors que le magasin, lui, avait été rénové et était assez coquet.
Vous dites d'ailleurs qu'à l'indépendance de l'Algérie, la rue de Constantine, qui est finalement la rue de votre enfance, a changé de nom. Elle s'appelle rue de Tripoli aujourd'hui.
Oui, rue de Tripoli. Ben oui, elle prenait la direction de la Libye, donc de la capitale libyenne. Oui, je trouve que c'est anecdotique. Ça fait partie des marques que tous les... Enfin, que le nouvel État a voulu effacer de la colonisation.
Finalement, je me rends compte, après vous avoir lu et avoir eu le plaisir d'échanger avec vous et de vous avoir fait monter à bord de wagon-livre, que ce texte n'est pas naïf, que finalement vous racontez la fin de votre enfance et le début de votre vie d'adulte, que l'Algérie, vous le décrivez d'ailleurs, vous a terriblement fait mûrir et qu'on peut considérer que le jeune Pierre-Jean Cardona, qui quitte l'Algérie en 61 à contre-cœur dans un premier temps, finalement a été protégé par ses parents des gros accidents, graves problèmes de 62.
Oui.
Vous avez été mis à l'abri et que votre vie d'adulte débutait après en France, qui est le pays auquel vous êtes, que vous n'avez jamais quitté depuis.
Ah, bien sûr. Et dans Lyon, puisque je suis devenu maintenant iconé complètement. Oui, j'ai fait, c'était le point de départ. Évidemment, j'ai fait ce reproche à mes parents, mais d'un autre côté, mon père aurait vraisemblablement été tué par l'OAS. Il y a eu tout un tas d'assassinats dans le centre du Saint-Dé. En plein jour, et où même les passants ne pouvaient même pas toucher la personne qui avait été abattue, parce que ça pouvait être considéré comme une marque qui montrait un peu de compassion pour...
D'empathie, oui.
D'empathie, et donc ça, c'était inacceptable. Donc je pense que mon père avait bien prévu ces choses-là, et mes parents ont protégé la famille. Voilà, bon, je le comprends aujourd'hui. Et d'un autre côté, c'est vrai que le fait d'avoir vécu dans une famille politisée, en tout cas avec un père très politisé, ça m'a moi aussi politisé, bien sûr, ça m'a marqué. Et ça m'avait fait beaucoup mûrir, ce qui fait que lorsque j'étais à l'adolescence et je suis passé, mon adolescence s'est passée avec cette arrivée en France, mais je ne me suis pas véritablement retrouvé comme un adolescent, mais comme un petit adulte. Je n'ai jamais... Je pense pas avoir eu des grosses crises de rigolade comme on a à cet âge en faisant des bêtises en bande, etc. Non, j'étais déjà marqué par la politique.
En tout cas, vous livrez un témoignage qui est touchant quand on aime l'histoire de France, quand on refuse d'avoir une mémoire oublieuse. Il faut se rappeler aussi ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. On est en 2018. Il n'y a que finalement 56 ans en arrière que l'Algérie devenait indépendante dans des conditions, bon, d'un côté comme de l'autre, humainement très difficiles.
Très difficiles.
Ne l'oublions pas.
Oui, des deux côtés.
Et je trouve que votre livre ne prend pas position. Hein. Il y a une...
J'aurais pu faire un livre où je prenais position, mais j'ai voulu plutôt laisser des souvenirs. Je voulais pas intervenir. Certains lecteurs m'ont reproché justement de ne pas prendre suffisamment position et de ne pas aller assez loin dans des analyses plus politiques. Mais c'était pas mon but. Mon but, c'était seulement d'avoir certaines évocations de cette vie. Quelles que soient les idées, on vivait le même type de vie dans ce milieu citadin de classe moyenne. Après, effectivement, on avait, comme aujourd'hui, des avis différents. Et tant qu'on pouvait en discuter, c'était bien. Mais il est arrivé un moment où on ne pouvait plus en discuter.
On est au terme de l'émission. J'aimerais bien que vous mettiez les images, les photos de votre papa sur ce texte. La boucle serait bouclée.
Oui.
Ce serait bien de le faire.
Alors, des images, vous voulez...
Je disais que reprendre peut-être le projet de documentaire et de film maintenant que le livre, le récit
est
écrit.
Ah oui, d'un point de vue, des images d'un point de vue physique.
C'est un encouragement à vous relancer sur l'idée du film avec les archives familiales.
Figurez-vous, j'ai oublié le titre, j'ai vu il y a quelques mois un film qui a été bâti de la façon dont j'aurais aimé le bâtir. Et j'ai trouvé que ce film était tellement bien fait. Je me souviens plus du nom du journaliste qui l'a fait et qui avait été journaliste et militaire en Algérie, et il l'a fait avec Benjamin Stora. Et donc on avait cette vision et ces images, documents historiques à la fois et documents personnels. Et comme c'est, je trouve qu'il est réussi. Je pense pas faire mieux ou même aussi bien. Donc non, je pense pas que je ferai ce genre de choses.
Je recommande fortement votre récit 38 rue de Constantine, riche en émotions, riche sur les origines, riche aussi sur le parcours de l'homme que nous avons entendu ce soir. Merci Pierre-Jean d'avoir été ce soir devant le micro. Ça me touche beaucoup.
Merci à vous Yannick. Ça m'a fait vraiment plaisir.
Bonne soirée à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de Wagon Livre. La semaine prochaine, nous serons avec Nicolas d'Estienne-d'Orve. Alors lui, c'est une autre époque de l'histoire de France. C'est l'époque plutôt de l'occupation et de la libération de la France, les années 50. Là, c'est la guerre d'Indochine plutôt que la guerre d'Algérie. Mais les exactions commencent en Algérie. Et nous parlerons donc de son roman « La gloire des maudits » aux éditions Albin Michel. Bonsoir à toutes et à tous, au revoir et à la semaine prochaine.